Europe 1, il est 8h15, c'est l'invité politique. Pierre de Villeneuve, vous recevez Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1 avant le décret attendu pour la semaine prochaine des préfets comme ceux de la Mayenne et du Finistère. Signe des arrêtés pour le port du masque obligatoire dans les lieux clos. Vous n'êtes pas épidémiologiste, Laurent Berger, mais vous êtes un Français sur un territoire où le virus continue de circuler. Avez-vous ce matin une crainte ?
Bah, la crainte, c'est celle, je crois, de tous les Français, c'est que le virus redevienne très actif sur le territoire, comme ailleurs en Europe, et donc nous empêche de vivre correctement, comme avant. Et après, du coup, il faut prendre les mesures. Et donc, comme vous l'avez très bien dit, je ne suis pas médecin et je n'ai pas les compétences pour. Mais si la consigne de sanitaire, elle est de porter des masques en espace clos, il faut le faire.
Mais c'est effectivement une première étape, le masque. On ne va pas, ni vous ni moi, faire de scénario. Mais il faut envisager une vie avec le Covid. C'est lourd de conséquences pour les travailleuses et les travailleurs de ce pays.
C'est très lourd de conséquences parce qu'il faut porter dans les couloirs. On le voit, ne serait-ce qu'en venant ici, dans la Confédération CFDT par exemple, mais dans tous les espaces de travail, il faut porter le masque. Moi, j'ai rencontré des salariés du bâtiment qui m'ont dit par exemple que c'était très exigeant. Il y a la chaleur aussi dans certains lieux de travail. Et donc, ça accentue des pénibilités au travail, ça accentue des gènes. Ça aussi, il faut l'intégrer, modifie les organisations du travail. Et donc, faut tenir compte de ça, faut dialoguer autour de ça. Il faut de la discussion, du dialogue autour des nouvelles organisations de travail liées aux contraintes qui sont les nôtres avec ce virus, avec lequel, comme vous l'avez dit, il va falloir vivre quelques temps.
Avec les autres syndicats, vous criez à juste titre l'emploi, l'emploi, l'emploi. La France s'attend à une vague de licenciements massifs à cause du Covid. Et avec ces risques de résurgence du virus, ça pourrait être encore pire. Comment anticiper ?
Moi, je ne crois pas qu'il faille avoir un discours totalement catastrophiste. Là, ce qu'on constate dans un certain nombre de secteurs, c'est que l'activité ne reprend pas si mal.
Notamment dans le bâtiment, puisque vous
en
parliez.
Mais il y en a d'autres où c'est scotché. On pense évidemment à l'aéronautique, au tourisme. Et la priorité, c'est l'emploi, le maintien de l'emploi, le développement de l'emploi. Pour ça, c'est toutes les mesures qui vont permettre dans les entreprises de faire le choix plutôt de la formation, du chômage partiel de longue durée, avec les accords qu'il faut négocier autour de ces sujets-là, plutôt que les licenciements. Et le deuxième élément, c'est d'investir dans les secteurs, à travers le plan de relance, dans les secteurs qui peuvent être créateurs d'emplois. Je pensais notamment à la rénovation thermique des logements, pour lequel le Premier ministre a annoncé 20 milliards d'investissements. Et donc maintenant, il faut que ça se mette en œuvre. Donc la priorité, c'est clairement l'emploi des jeunes. Les jeunes vont être durement impactés, ils le sont déjà. Il faut savoir que nombre de jeunes n'ont pas eu l'emploi saisonnier auquel qu'ils espéraient, parce que la situation économique n'est pas bonne. Donc l'emploi des jeunes, c'est la deuxième priorité. La troisième, c'est la lutte contre la paupérisation de la société. On a aujourd'hui presque 6 millions de personnes qui vivent, qui mangent grâce à l'aide alimentaire. On a tout un tas de jeunes qui plongent aujourd'hui dans la pauvreté. Donc c'est ça les priorités de la rentrée, de l'été et de la rentrée, et pas autre chose.
Vous allez donc vous retrouver à table avec Jean Castex ce matin pour une conférence du dialogue social. C'est pas un peu pompeux comme appellation ?
Non, c'est pas pompeux, et en plus le nom n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est que le Premier ministre s'engage dans une volonté sur un certain nombre de sujets, le plan de relance économique, la lutte contre le chômage, l'emploi des jeunes, la lutte contre l'exclusion sociale. Il s'engage dans une volonté de dialogue social et d'agenda social partagé pour avancer ensemble.
Vous partez sur de bonnes bases avec lui ?
En tout cas, il a annoncé, et dans son discours de politique générale, il a parlé, je ne sais combien de fois, de dialogue social et des organisations syndicales et patronales. Donc oui, chiche, allons-y. Allons-y, parlons de ça. Il a aussi ouvert un certain nombre de pistes de chantier, notamment celui de la partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, le partage de la richesse. C'est un sujet évidemment qui nous intéresse. Qu'est-ce qui va aux travailleurs ? Qu'est-ce qui va à l'investissement ? Et donc, on va s'inscrire dans cette logique-là à une seule condition, qu'il n'y ait pas de parasitage. Ce parasitage, c'est de remettre les sujets qui créent de la grosse conflictualité sur la table, et notamment celui des retraites.
Ben oui, mais justement, Jean Castex, lui, sur le souhait du président, scinde en deux la question de cette réforme des retraites, et il s'apprête pourtant à examiner le volet de l'équilibre financier sur ce dossier.
Non, mais je tiens à être très clair ce matin sur le sujet. La CFDT continue de penser qu'un système universel des retraites est beaucoup plus juste. Sans doute qu'il faut le prendre différemment de la façon dont il a été pris jusqu'alors. Donc tout ça, c'est un sujet qui sera renvoyé. Parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas le faire en même temps qu'on s'occupe des problématiques d'emploi. Le deuxième élément, c'est la question de l'équilibre des régimes de retraite. Aujourd'hui, en partie, ces régimes sont menacés parce qu'il y a eu un élément conjoncturel qui a été le confinement. Donc là, avec un non-versement de cotisations, etc. Mmh. Il faut isoler ce qui a été cet élément conjoncturel. Donc il ne faut pas aller vers une réforme paramétrique des retraites, c'est-à-dire un allongement ou je ne sais quoi, parce que ce ne serait
un
pas juste...
Un allongement de durée de cotisation ?
Mais oui, ce ne serait pas juste dans cette période où les travailleurs, ils ont subi, comme tout le monde, le confinement. Donc si vous voulez remettre du conflit, si vous voulez faire un automne ponctué de conflits sociaux, etc., vous remettez la question du financement des retraites sur la table, là, en juillet ou à la rentrée.
Vous dites que ça risque donc, de stopper tout ce qui pourrait être du dialogue.
Mais de toute façon, mais oui, ça stoppera, ça créera un climat qui sera un climat de défiance. De quoi on a besoin aujourd'hui ? On a besoin d'un plan de relance, on a besoin de confiance. C'est-à-dire qu'on retrouve confiance dans nos fonctionnements collectifs. Mmh. Ça se passera pas sur front de conflit sur les retraites. Donc il faut repousser cette idée de discussion sur les retraites. Il sera bien temps, en début d'année 2021, après avoir fait ce diagnostic sur ce qui est conjoncturel dans le financement des retraites, comme difficultés financières, ou ce qui est plus structurel, donc des réponses à trouver, il sera bien temps de le faire en début d'année. Si on le fait maintenant, je ne donne pas cher de la capacité de relance de la France.
Et si on le fait maintenant, est-ce que vous rejoindrez l'appel à manifester le 17 septembre ?
Vous savez, la CFDT, elle est la première organisation syndicale de ce pays. Elle rejoint l'appel de personne. Elle discute avec les uns et les autres pour savoir ce qu'on peut faire ensemble. Pour l'instant, le sujet des retraites n'est pas sur la table. Moi, ma préoccupation, c'est, avant de lancer
l'emploi,
les appels,
vous l'avez dit.
C'est l'emploi, et c'est surtout de dire à ce gouvernement, OK, allons-y sur les concertations, sur la discussion, sur l'emploi, la relance. Sur les autres sujets qui sont sur la table, qui tiennent à ces questions, à ces des questions d'inclusion sociale et d'emploi, de partage de la valeur, mais rien sur les retraites dans un premier temps.
Rien sur les retraites et sur l'assurance chômage ?
Sur l'assurance chômage, j'ai dit quand cette réforme est sortie qu'elle était injuste. Aujourd'hui, elle est injuste et inadaptée. Donc il faut y mettre fin.
Et d'ailleurs, Jean Castex a dit qu'il était prêt à décaler le second volet qui était prévu au 1er septembre.
Eh bien, il faut tout décaler ou tout annuler. Et repartir une discussion sur ce que doit être l'indemnisation chômage aujourd'hui dans cette période où malheureusement il a explosé.
Et qu'est-ce qu'elle doit être justement ?
Elle doit être plus protectrice pour plus de salariés. On couvre simplement que 50% des chômeurs dans ce pays avec l'assurance chômage. Elle doit intégrer que malheureusement la précarité est très développée.
C'est pas le cas pour l'instant ?
C'était le cas avant ces règles-là. Mais ces règles-là mettent des salariés précaires qui subissent la précarité en difficulté d'indemnisation. Et puis, je crois qu'il ne faut pas jamais oublier la fonction d'accompagnement des demandeurs d'emploi. C'était un objectif de cette réforme. Maintenant, il doit être démultiplié, par exemple, très clairement. Il faut qu'on se dise les choses. Avec autant de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, autant de demandeurs d'emploi, il faut des moyens supplémentaires dans les missions locales à Pôle emploi pour faire ce travail d'accompagnement des transitions professionnelles dans ce contexte économique quand même très très difficile.
On a déjà sorti des primes à l'embauche, 4000 euros de primes pour tout emploi d'un jeune ?
On ne sait pas encore le dispositif. Moi, je suis assez réticent sur cette idée de primes sans donner des exigences en termes de conditions aux entreprises. Ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être généralisé sur l'ensemble des jeunes. Je pense qu'il faut viser les jeunes les plus en difficulté d'insertion professionnelle, et notamment ceux qui ont des basses qualifications. Je préfère un dispositif de primes qu'un dispositif de baisse de cotisation.
Oui, parce que c'est un one shot.
Parce que la baisse de cotisation, de vous à moi, ça ampute les régimes sociaux. Mmh. Donc après, on a beau jeu de dire qu'ils sont en déficit, mais enfin, on les prive de recettes. Donc, en tout cas, sur les jeunes, ça ne pourra pas simplement être une question de prime à l'embauche. Ça doit être l'augmentation du nombre de jeunes en accompagnement, aussi régler la question de la pauvreté de la jeunesse. Moi, je pense qu'il faut instaurer un RSA pour les jeunes. Enfin, il y a toute une palette, la CLT a fait 13 propositions sur l'emploi des jeunes. On va les présenter dans les jours à venir.
Et tout ça, c'est justement sur la table. Laurent Berger, ça fait plus de 20 ans que vous êtes à la CFDT, bientôt 8 ans que vous avez remplacé François Chérec. Vous en avez connu des gouvernements. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là ?
J'en ai connu, mais je n'ai jamais commenté les castings. Parce que, vous savez, moi,
c'était une première.
Avant d'être en responsabilité, j'étais délégué du personnel dans une entreprise et je ne choisissais pas mon directeur.
Mais Jean Castex vous donne plus de...
En tout cas, le Premier ministre, là, il crée des signes d'ouverture en direction du dialogue social.
Et ce n'était pas le cas d'Edouard Philippe ?
c'était pas la même pratique, changement d'homme, changement de style. J'ai beaucoup de respect pour Édouard Philippe, je dois le dire, comme j'ai beaucoup de respect pour l'ensemble de mes interlocuteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, syndicaux, patronaux ou gouvernementaux, mais c'est pas le même style, c'est pas la même logique en termes de dialogue social, et donc le rôle d'une organisation syndicale, c'est de défendre les travailleurs et de saisir toutes les opportunités pour le faire. Si ça se fait là, par un dialogue social franc, sincère, loyal, eh bien on va s'y engouffrer, et on fera valoir nos propositions. C'est ce qu'on va faire ce matin.
Merci beaucoup Laurent Berger d'avoir été avec nous sur Europe 1.